Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdin.
Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau numéro du meilleur de Sud Radio. On va passer cette prochaine heure ensemble et réécouter comme chaque week-end des extraits des temps forts de cette semaine. Et on commence avec le Loft Music. Mercredi, Yvan Cujus recevait Benabar, l'occasion de vous proposer un live inédit de son titre « Les belles histoires », extrait de son nouvel album « Indocile heureux », un titre dans lequel le chanteur se demande où sont passés les romantiques. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Ce soir, il est en direct dans le Loft, Bruno Benabar.
On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dire à tes amis.
Et puis quelques copains qui peuvent surgir à tout moment dans cet instant impéritif du Loft Music, puisque d'ailleurs, je vous l'annonce, on a réparé la sonnette du Loft. Vas-y, fais péter la sonnette, Lulu. Voilà. Ça, c'était l'ancienne en fait, mais la nouvelle, elle fait. Voilà, et donc il y a des gens qui peuvent arriver. Je vous signale et vous indique aussi qu'il y a deux albums de Bruno Benabar à gagner sur les réseaux sociaux à partir de tout de suite. Bruno Benabar qui est là, salut Bruno.
Salut, comment va?
Et puis écoute, ravi de t'avoir, ravi de t'avoir. Et puis,
très alors, content d'être là.
Eh bien écoute, c'est partagé. En belle compagnie, il y a du monde dans le respect des conditions sanitaires, évidemment, autour de cette table et de ce studio. Et alors tu vois, on avait réparé la sonnette pour te faire une super surprise. Et comme on est une prod, semi-professionnelle, la surprise a raté. Et dans l'escalier, tu vois, croisé l'invité qui devait être surprise.
Les Dupont et Dupont.
Qui s'appelle Eric Toulis. Applaudissements pour Eric Toulis.
Bravo. Avec une autre partie des escrocs.
Voilà. Et une
monsieur.
Alors ça va être compliqué, hein, parce que entre ceux qui jouent dans les escrocs, qui sont en même temps musiciens avec Bruno, enfin ça va
être. Ah ouais, ça va être un bordel.
Tu vas en chier pour.
Je sais. Non, mais je sais.
Ça va fumer. Hein, pour que les gens vivent le truc.
Je me suis préparé psychologiquement.
C'est un peu la Roumanie là aujourd'hui. Ça va être chaud. Ça va être chaud.
Eric Toulis qui est là, et puis et qui est évidemment en tournée quand il pourra reprendre avec l'Aventura notamment, et chez des amis. Rire et chansons une
absolument,
fois par mois.
Voilà.
Où tu fais des chansons.
Voilà, une
rire.
Fois par mois, une chanson sur l'actu. Voilà, une chronique en chanson. Quoi. Ouais, c'est rigolo.
Hervé est au piano avec toi. Il est aussi le pianiste de Benabar.
Voilà.
Xavier est à la guitare. Jade est au cœur. Voilà. Enfin, tout va bien, on est assez
heureux
finalement.
Hein.
Et surtout, Benabar, ton nouvel album.
Et Hervé est aussi le carreleur de Bispo. Ah ça, il y a moins de gens, qui le savent.
Bah, tu sais, il faut trouver du boulot.
Ah bah, en ce moment, c'est chaud. Hein.
C'est chaud en ce moment.
Ça va être une panique magnifique ce soir. Et le nouvel album de Benabar s'appelle Indocile heureux. Le cadeau d'entrée, c'est finalement le live direct avec Jade et Bruno. Tu m'as dit tout à l'heure cette belle histoire, parce qu'on parle de belle histoire dans cet album, et il en est une là à raconter direct. C'est que Jade, qui est au cœur ce soir en direct dans le Loft Music sur Sud Radio, elle vient d'où Jade alors?
Elle était dans le studio d'enregistrement où on faisait les voix, et elle faisait un stage. Et on bricolait un moment des voix comme ça, et puis le directeur artistique Bertrand Lamblot a dit mais tu chantes bien toi, tu voudrais pas faire une voix, essayer. Et elle a chanté sur cette chanson, et puis depuis elle nous accompagne à chaque fois qu'on fait le titre, et c'est un plaisir, ça a été un plaisir de la rencontrer.
C'est chouette.
Et c'est une belle histoire.
Bah ouais,
donc elles écoutent, elles existent, ces belles histoires existent donc, on est bien d'accord, c'est ce que tu dis.
De temps en temps.
Oui, tu vois, de temps en temps, elles existent. On écoute. Ça s'appelle Tous les divorcés, et c'est en live dans le Loft Music sur Sud Radio, extrait évidemment du nouvel album de Benabar, Indocile heureux. On vous écoute.
Où sont passés les passants qui flânaient le nez en l'air? Joli cœur au fil du vent et non pas de Tinder. Où sont passés les trépassés, les Roméo, les Juliette? Qui enlacés sans s'enlacer meurent depuis 1597. Et le piment doux des premières querelles d'amoureux. La première fois où on dit nous, la première fois qu'on se sent deux. Les palpitants brisés aux sanglots pathétiques. Où sont passés les dépassés? Où sont les romantiques? Les belles histoires, elles sont bien quelque part. Dites-moi que c'est pour attraper une femme en pleurs qui part. Cet homme qui court dans cet aérogare. Je ne veux pas croire qu'il est juste en retard. Où est l'élève subjugué qui pour sa prof de français rédige un mot doux sans penser qu'elle le corrigerait?
avant celle que vous m'avez inspirée, inspirée E-E-S.
L'amour s'accorde avec le COD, une maîtresse reste une maîtresse. Et les fables du passé, où sont passés les anges? Les cupidons aux ailes froissées sont-ils en vigilance, orange? Et le soupirant rougissant qui a le cœur en panique, où sont passés, bon sang, les derniers romantiques? Les belles histoires, elles sont bien quelque part. Dites-moi que c'est pour attraper une femme en pleurs qui part. Ah, cet homme qui court dans cet aéroport, je ne veux pas croire qu'il est juste en retard. Où sont passés le rouge aux joues et les symptômes de l'AVC? Quand on éprouve malgré nous ces sentiments incontrôlés, et les sonates de Chopin qui a coupé la musique. Et puis merde à la fin, où sont passés les romantiques? Les belles histoires, elles sont bien quelque part. Dites-moi que c'est pour attraper une femme en pleurs qui part. Cet homme qui court dans cet aérogare, je ne veux pas croire qu'il est juste en retard. Je ne veux pas croire qu'il est juste en retard. Merci beaucoup.
En direct sur Sud Radio, dans le loft, Benabar, avec Jade, avec Xavier. Pour les belles histoires, j'ai annoncé tous les divorcés d'ailleurs. Alors que c'est les belles histoires. T'avais pas entendu ma connerie.
Des fois, le divorce peut être une belle histoire.
Oui.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Yvan Cujus et ses invités, rendez-vous de 20h à 21h en direct dans le Loft Music. Et notez bien dans vos agendas, l'invité de lundi sera Pascal Obispo. Ne bougez pas, on va revenir dans un instant avec Philippe Rossier et toute l'équipe des Vraies Voix qui ont débattu sur la diffusion du foot à la télé. Et avec l'invité de la matinale de Patrick Roger et de Cécile de Minibus, Vincent Ahen, propriétaire de l'hôtel Windsor Opéra à Paris. Restez sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Comme tous les week-ends, c'est un plaisir de vous accompagner et d'écouter avec vous les meilleurs extraits des émissions de cette semaine, comme mardi dans Les Vraies Voix. Lors de leur traditionnel débat, Jean-Marie Bordry et ses chroniqueurs ont débattu sur le désaccord entre les chaînes françaises et la Ligue nationale de football sur le rachat des droits télé, des sommes astronomiques qui choquent nos chroniqueurs. Écoutez.
Les Vraies Voix Sud Radio.
On refait le match.
Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau.
Le Touquet, je connais très bien sûr. C'est toujours une ville que j'aime bien venir.
Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
C'est passé dans le dos, le centre, Lucas.
Allez.
Second poteau, Pavard. Ouais,
je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut.
Tous les moments presque préférés qu'on a pu vivre à la télé en regardant un match de foot, qu'on soit fan de foot ou pas d'ailleurs. Hein, vous entendiez la voix de Thierry Roland, celle de Thierry Gilardi. Le but de Benjamin Pavard, c'était à la télé qu'on l'a vécu ou sur un écran géant, en tout cas pendant la Coupe du Monde 2018 contre l'Argentine. Et si c'était bientôt la fin du football à la télé? Les chaînes françaises ne se mettent pas d'accord, en tout cas avec la Ligue nationale de football, pour racheter les droits télé. On a un OM-PSG qui est prévu dimanche. On ne sait pas du tout où ni sur quelle chaîne il sera diffusé justement. Est-ce bientôt la fin du football à la télé? Est-ce qu'on va se tourner plus tard, au lieu de la télé, plutôt sur des grandes plateformes? C'est une question qui mérite d'être posée. Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, 0826 300 300 dans quelques instants sur Sud Radio. Philippe Bidger.
En fait, Jean-Marie, avant même ces débats, il y a des matchs dont je trouvais scandaleux que le commun des citoyens, sans aucun mépris, ne puisse pas les voir. Parce que le football, qu'on le regrette ou non, est encore le vague lien d'un pays qui en manque beaucoup par ailleurs. Et donc, non seulement ce que vous évoquez, cette situation devient dramatique financièrement, mais je suis persuadé que ça ne disparaîtra pas. Le foot reste tout de même une passion nationale et j'en suis, j'allais dire, le pire des exemples, puisqu'en définitive, je suis tout à fait partisan de regarder les matchs, notamment de l'équipe de France, et je pense qu'on va continuer à avoir un patriotisme de club de la même manière qu'on a un patriotisme national. Mais pour cela, il faudra que le football national et international donne une autre image de lui-même. Ça ne devrait pas être que du fric. Tout de même, franchement, je ne dis pas que la pureté est possible, mais quand je vois le monde du foot tel qu'on le montre, avec des sommes somptuaires qui sont de véritables offenses, j'ai la passion du foot, mais je veux dire, il faudrait qu'il garde un peu de tenue.
Et justement, ce fric dont vous parlez si bien, mon cher Philippe Bilger, c'est le nerf de la guerre. 1 milliard d'euros, c'était le montant des droits télé achetés par la chaîne Média, par le groupe Mediapro pour la chaîne Téléfoot. Le groupe Mediapro a quasiment fait faillite. Il resserre les droits et la Ligue n'arrive plus à les revendre.
Alors, moi, je rejoins tout à fait ce que disait Philippe Bilger sur la question de l'argent. En effet, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup choqué. Et moi, plus jeune, j'étais plutôt dans la team tennis, c'est-à-dire que quand j'étais ado, je faisais pas du foot, je regardais pas. Par contre, je faisais du tennis et j'aimais beaucoup ça.
Il n'y a pas d'argent dans le tennis.
Et je me plaignais quand même du fait qu'il y avait très peu de retransmission à la télé pour voir Wimbledon à part Roland Garros. C'était super compliqué. Fallait regarder à 1h30 du mat, etc. Et il y a plein d'années, c'était même pas diffusé. Donc voilà. Encore une fois, hommage quand même aussi aux autres sports qui existent également. Tout le monde ne regarde pas que le foot. Ensuite, sur ce que vous disiez sur effectivement cet imbroglio invraisemblable autour des questions de l'argent, c'est peut-être aussi un retour de bâton un peu mérité aussi du fait d'avoir brassé autant ces dernières années, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, sur les comportements, ça paraît effectivement assez clair. J'ai vu qu'il y avait aussi un problème sur le téléchargement illégal.
Vous voulez regarder, Tom Conan, question très précise. Ouais. Vous voulez regarder un match aujourd'hui. Combien d'abonnements en tout faut-il avoir pour être sûr de ne rater aucun match de notre club ? Ça passe sur plusieurs chaînes, sur le groupe Canal, sur le groupe... Enfin, on n'en sort plus.
Et du coup, en fait, on voit le même problème, ceci dit, vous voyez, sur la question des séries avec les plateformes. Parce qu'actuellement, en fait, il y a quelques temps, il y avait juste Netflix, hein, pour ne citer qu'elle. Et ensuite, il y a eu Amazon, Apple TV, maintenant il y a HBO Max, etc. Donc, ouais, il va y avoir exactement le même problème dont va être victime le foot, mais sur la question des fictions, etc. Où il faudra être abonné à 4 trucs. Donc, au final, personne ne s'abonne. Laura, en fait.
Laura.
Non, mais je suis d'accord avec Teddy Tom, à la différence que les séries, pour beaucoup, c'est de la création que les plateformes achètent, alors que le foot, effectivement, on a envie qu'il y ait quelque chose de démocratique et qu'on ne soit pas obligé de payer, comme ça va être le cas, comme ça a été le cas. Donc, c'est plutôt bien, c'est un mal pour un bien, parce que ça rebat les cartes, et c'est plutôt sain que ça rebatte les cartes de cette façon, et de se dire, ben, finalement, voilà, à force d'avoir... voulu augmenter, mais c'est la Ligue est responsable aussi d'avoir voulu augmenter les prix les prix en disant à un moment ça explose. Et effectivement, je trouve que le foot devrait être regardé par le plus grand nombre avec de la publicité, parce que mine de rien, ça ne coûte rien pour le téléspectateur et tout le monde n'a pas les moyens. Et comme vous le disiez très justement, Jean-Marie, on ne savait plus sur quelle plateforme regarder. Moi, j'ai un fils qui est passionné, je vous avoue, je le suis un peu moins que Philippe Bilger, mais quand même, je suis. Et donc, c'était il faut que tu on n'a pas de ligne sport, on n'a pas machin, il faut que je regarde le foot. Et ça devenait très compliqué.
Et ça l'est toujours.
On va pas prendre un abonnement de plus.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et rendez-vous dès lundi de 17h à 19h avec toute l'équipe des Vraies Voix et leurs invités. On continue avec un extrait de la matinale de lundi. Dans le petit déjeuner de l'actu, Patrick Roger et Cécile de Minibus recevaient Vincent Haen, propriétaire de l'hôtel Windsor Opéra à Paris. L'occasion de faire le bilan des établissements affectés par la crise sanitaire. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
On parle des hôtels aussi ce matin avec Vincent Haen, bonjour.
Bonjour.
Propriétaire de l'hôtel Windsor Opéra dans le 10e arrondissement. Elodie Garamond est avec nous aussi. Bonjour Elodie.
Bonjour Cécile.
Fondatrice du Tigre Yoga Club et venue pour cette association Touche pas à ma salle.
Oui, absolument. Avec beaucoup de salles de sport, enfin la plupart, qui sont fermées depuis maintenant des mois, qui ont rouvert un petit peu, qui ont refermé comme les hôtels. Alors c'est une situation très particulière pour les hôtels et on prendra donc Xavier Denamur dans un instant. Pour les hôtels, c'est particulier parce qu'il n'y a pas eu de fermeture ordonnée, Vincent Haen, comme pour d'autres secteurs.
Oui, on n'a pas eu d'arrêté de fermeture.
au mois de mars parce que ils n'ont pas eu à se payer le luxe de nous fermer puisque de fait nous étions fermés par l'absence de clients. Ce qui est bien dommage pour nous parce que nous n'avons pas eu d'aide pendant 8 mois.
Ouais.
On a commencé à avoir des aides au mois de novembre. Donc de mars à novembre, perte sèche, aucun fonds de solidarité, rien.
Et tout à régler.
Et tout à régler, parce qu'on a énormément de charges. Donc on a commencé à faire des PGE, mais un PGE n'est pas une aide, un PGE c'est un prêt. Et il faut bien commencer à rembourser au bout d'un moment. Et moi j'ai eu 10 000 euros au mois de novembre, et j'ai eu pour le mois de décembre, comme les restaurants, c'est-à-dire 20% du chiffre d'affaires du mois de décembre en référence de l'année d'avant. Voilà. Et ça va continuer pour janvier, mais je ne sais pas combien de temps ça continuera. Ce qui veut dire qu'entre mars et octobre inclus, on n'a eu aucune aide.
Ouais.
À part le chômage partiel, comme tous les gens qui ne pouvaient plus...
Et alors, vous n'avez pas fermé, quoi, parce que vous auriez pu fermer en se disant, bon, bah, je ferme et bah, puis j'aurai moins de charges.
Si vous baladez à Paris, vous verrez que la plupart des hôtels sont quand même fermés, c'est-à-dire qu'ils sont palissadés.
Dans beaucoup de parties de France.
Pour éviter les cambriolages.
Entre autres, alors, il se trouve que l'hôtel Windsor, moi, j'ai une énorme verrière, donc j'avais une contrainte technique à poser des palissades. Donc, j'ai fait ce qu'ont fait certains hôteliers, c'est-à-dire que je me suis installé dans mon hôtel pour faire le gardien.
Ouais.
Et je suis maintenant donc confiné dans mon hôtel vide depuis le mois de mars.
Vide vraiment ou vous avez quand même un petit peu de
la
visite.
Semaine dernière, j'ai eu un client, deux nuits. Et ce soir, j'ai trois Belges.
Ouais.
Mais c'est tout pour la semaine.
Ouais.
En fait, en temps normal, je fais à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois.
Ouais.
Et là, je fais entre 1 000 et 3 000 euros pour les mois fast par mois. Donc, j'ai 99% de perte de chiffre d'affaires.
Ouais. Et on ne vous a pas proposé, à un moment donné, de se dire, bon, bah, finalement, comme c'est une situation difficile, un peu comme pour les restaurateurs, etc., vous fermez, puis il y aura un remboursement du chiffre de votre chiffre d'affaires.
Non.
Enfin, à hauteur de votre chiffre d'affaires.
On n'a pas eu ça. On n'a pas d'arrêté de fermeture. On est censé être ouvert. Et pour vous dire à quel point ils considèrent qu'on est ouvert, moi, on m'a quand même... fait une visite de sécurité de la préfecture de Paris au mois de décembre.
Ouais.
Chacun ses priorités. Moi, ils sont venus me contrôler en décembre, parce qu'on est contrôlé tous les 3 ans, avec tout l'aréopage de la préfecture, le pompier, tout ça, pour me renouveler mon autorisation à recevoir du public. Alors, puisque j'étais fermé depuis 10 mois, et avec les confinements successifs, j'avais tout un tas de visites de maintenance qui n'avait pas été faite, la vérification des extincteurs, la trappe de désenfumage, le système de sécurité incendie, enfin tous ces trucs-là, que j'ai dû faire en urgence pour être au point au moment où la préfecture débarquerait.
Ouais. Bon, donc situation effectivement plus que complexe, quoi, évidemment.
Ouais.
Sur les salles de sport, Élodie Garamond, bonjour.
Oui, bonjour Patrick.
Les salles de sport sont fermées, mis à part quelques petites dérogations sur prescription médicale. Quoi.
Oui,
mais c'est extrêmement rare,
comme,
ça, non ?
Comme le décret a été pris très vite, sans anticipation et sans concertation, il y a évidemment des petits trous dans la raquette.
Ouais.
Donc, dans les petits trous dans la raquette, il y a effectivement cette idée qu'on peut ouvrir sur prescription médicale, mais ça ne concerne qu'un certain nombre de maladies et il faut avoir des professionnels qui peuvent accueillir ce public avec des compétences précises pour répondre à ces impératifs médicaux. Or, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a, et je ne jette la pierre à personne, qu'il y a beaucoup de personnes qui en profitent. Et il y a d'autres trous dans la raquette.
Ouais.
Si, par exemple, on propose des activités artistiques comme la danse, bah, on peut rester ouvert puisque c'est une activité artistique et non pas physique. Il faudra m'expliquer la différence. Donc, certaines personnes proposent des cours de sport dans les salles de danse, et ça, c'est autorisé, ce qui est complètement absurde. Et puis, il y a les ERPR, il y a les centres de formation. Donc, il y a plein de petits trous. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que toutes les personnes qui défendent la filière du sport et qui s'exposent finalement et se mettent en risque pour les autres et donc restent fermées, passent pour des cons. Parce que nous, on a des élèves qui nous disent « Je ne comprends pas, un tel reste ouvert, et un tel est ouvert, et machin est ouvert. Et pourquoi vous n'y arrivez pas ?» Et effectivement, pourquoi nous, on n'arrive pas à trouver la petite faille qui nous permettrait de rester ouvert ? Tout simplement parce qu'on essaye d'être dans les clous pour défendre cette filière et pour rouvrir légalement, parce que c'est absurde de nous avoir fermés. D'autant qu'il n'y a eu aucune étude. Et surtout, on n'est pas rentré dans le détail des activités. Donc, on a considéré qu'on fermait intégralement la filière sport le 25 septembre. Et je rappelle quand même, pour ceux qui l'ont oublié, qu'on était les derniers à rouvrir au mois de juin. Quand tout le monde avait rouvert en mai, nous, c'était le 22 juin, avec des contraintes, des protocoles d'accueil sanitaire qui étaient hyper complexes, hyper coûteux.
Vous avez engagé de l'argent, oui.
Mais oui, on a engagé de l'argent et surtout, ça dégradait considérablement notre offre. Donc, les élèves se plaignaient en disant « j'ai plus ci, j'ai plus ça, j'ai plus ma douche, j'ai plus mon matériel, etc. » Tout le monde a joué le jeu, il n'y a pas eu de cluster, il n'y a pas d'études prouvant que nous avons été des centres de contamination et on nous a fermé le 25 septembre. Donc on a eu le droit à l'été quand il n'y avait personne, ça c'était hyper sympa, et le 25 septembre on a refermé sans aucune concertation, sans qu'on ait anticipé quoi que ce soit, et on est fermé depuis.
Donc aujourd'hui... Est-ce que ça veut dire que ça va changer quand même les habitudes de vos clients, de dire que maintenant ils sont tous allés sur le net, ou ils ont trouvé d'autres manières de travailler? Est-ce que...
Alors,
ça aussi c'est
pour certaines activités sportives, oui, et c'est là où, quand on a fait le référé liberté, on a demandé à être traité séparément pour les activités physiques sans contact, individuelles et sans contact, des autres activités, parce que pour des salles d'escalade, pour des salles de foot, pour des salles de paddle, bien sûr que quand ça va rouvrir, les clients vont revenir parce qu'ils sont contents de retrouver leur infrastructure. Mais pour le fitness ou le yoga ou le pilates, où on a pris les habitudes de pratiquer en ligne, il y a une offre pléthorique, payante ou gratuite sur tous les réseaux sociaux, l'habitude a été prise avec finalement un certain confort. Chacun s'est organisé, s'est équipé pour pouvoir pratiquer à la maison. Si, quand on va rouvrir, les conditions sanitaires sont trop strictes pour les enseignants et pour les élèves, et notamment qu'on nous impose le port du masque, qui va avoir envie de revenir chez nous? Sincèrement, vous allez avoir envie de revenir trois fois pour retrouver vos profs et vos copains, mais pratiquer sans matériel, sans aucun service
connexe et annexe,
et en plus avec un masque, sincèrement, on préfère pratiquer gratuit chez soi sans masque, non?
Oui.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Retrouvez Patrick Roger et Cécile de Minibus et leurs invités. Rendez-vous lundi de 7h à 10h dans le Grand Matin Sud Radio. Restez avec nous, on va revenir dans quelques instants avec André Bercoff et son invité, la directrice de la Fondation IFRAP, Agnès Verdier-Molinier. A tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Avant de retrouver André Bercoff dans tous ses états et son invité Agnès Verdier-Molinier, j'avais envie d'écouter avec vous un son disco comme on les aime. On doit ce succès international de 1978 à l'un des plus grands groupes britanniques de tous les temps, les Bee Gees, classé dans le top 10 en France et au Royaume-Uni. Le titre que j'ai choisi pour vous est issu de la bande originale du film Saturday Night Fever et je vous garantis qu'il va vous donner l'envie de danser. Voici More Than a Woman sur Sud Radio. tube indémodable des Bee Gees, extrait de la bande originale du film culte Saturday Night Fever. On poursuit avec André Bercoff dans tous ses états. Jeudi, l'animateur recevait pour son face-à-face Agnès Verdier-Molinier, directrice de la fondation IFRAP qui évalue les politiques publiques. Venue présenter son livre « La France peut-elle encore tenir longtemps ?», un livre dans lequel elle fait état d'une France en voie de disparition avec des dettes qui s'accroissent de jour en jour à cause de la crise sanitaire. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Paye tes dettes, paye tes dettes, une de paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas.
Et voilà, c'est la morale du délivre d'Agnès Verdier-Molinier. Il faut que je dise qu'Agnès Verdier-Molinier, d'abord, on est toujours heureux de la recevoir parce que elle parle vrai, elle aussi, mais elle, avec des chiffres et des lettres. Et surtout, j'ai beaucoup aimé votre portrait dans le Canard Enchaîné, où on peignait la Cruella avec les 65 millions de Dalmatiens, pas le procureur justement, mais de Dalmatiens, et elle disait, allez, 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 vous bougez, vous sortez, vous commencez à faire des choses. Mais alors Agnès, ce qui est formidable, c'est que vous avez une persévérance, franchement, et je ne sais pas du tout d'ironie à quelle je rends hommage, parce que la mondialisation va-t-elle nous tuer ? Les fonctionnaires contre l'État, 60 milliards d'économies, on va dans le mur. Ce que doit faire le prochain président, en marche vers l'immobilisme. Je cite les titres de tous vos livres, et tous vos livres tentent toujours, vraiment, au moins, vous avez la cohérence. Et vous dites, bah alors, quand est-ce qu'on va s'en sortir ? Comment on s'en sort ? Et ce dernier, avec beaucoup, beaucoup de renseignements, la France peut-elle tenir encore longtemps ? Mais vous n'êtes pas découragé, Agnès Verdier-Molinier ?
Pas du tout.
Vous dites, vous lancez les avertissements, vous êtes la Cassandre, notre Cassandre nationale, mais il ne se passe rien.
Au contraire, je pense que comme on a atteint maintenant le fond de la piscine, c'est maintenant qu'on va pouvoir prendre les bonnes décisions.
Oui.
Ça fait des années que je travaille sur ces questions, vous l'avez dit André, ça fait des années qu'on alerte. Là, je pense que la situation est beaucoup plus grave. Je le dis dans le livre, 1 milliard d'euros par jour a été emprunté par la France en 2020. On va être quasiment au même niveau cette année 2021. Le quoi qu'il en coûte est arrivé au maximum du maximum. Et maintenant, je pense que les Français attendent tous qu'on leur explique quelle va être la suite de l'histoire.
Mais alors, justement, Agnès Verdier-Molinier, et vous le dites, et on va en parler tout le long avec nos auditeurs ensuite, 1 milliard, tout ça par jour, etc. Mais le problème, c'est que les Français ont l'impression, encore une fois, fausse, et vous le montrez, mais on a tous l'impression, on dit oui, d'accord, mais ça dure, pourquoi ça ne durerait pas encore longtemps comme ça ? Puisque, voilà, on sait la dette, vous avez dit, c'était d'ailleurs, vous donnez le chiffre dans votre livre,
oui.
En 1978, c'était 10% du PIB, aujourd'hui, 2020, 120% du PIB, on est passé 12 fois quand même, c'est énorme. Sauf qu'ils se disent, oui, mais la dette, oui, elle est là, et puis on pourra, vous en parler aussi, oh, peut-être qu'on pourra la liquider d'une manière ou d'une autre, et je rappelle, et je voudrais d'abord commencer par vous expliquer quelles sont les deux mamelles qui tiennent notre dette, j'explique, la BCE, la Banque Centrale Européenne, et l'Agence France Trésor. Et l'Agence France Trésor, les gens ne connaissent pas du tout. Je voudrais que vous nous parliez de cette Agence France Trésor. Alors, en quoi, effectivement, ces deux responsables, enfin, ces deux institutions tiennent, effectivement, presque notre avenir en main?
Absolument,
part.
C'est ce que j'explique dans le livre, cette agence France Trésor que personne ne connaît, c'est une quarantaine de personnes qui ne sont pas titulaires de la fonction publique, hein. Ce ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des contractuels qui souvent ont travaillé avant pour des grandes banques, qui ont été traders, etc.
C'est une agence privée ou publique ?
Alors c'est public, c'est à Bercy, hein, c'est
ouais.
Dans l'immeuble de Bercy,
ouais.
Et ça fonctionne d'une manière hyper professionnelle. Pourquoi ? Parce que toutes les deux semaines, il faut qu'ils placent de la dette française. Hein. Là encore, dernièrement, c'est plusieurs milliards à chaque fois. Je donne un peu les chiffres et l'augmentation des chiffres qu'on doit placer toutes les deux semaines, notamment en obligations, ce qu'on appelle les obligations à long terme, hein, de l'ordre de 10 ans. Par exemple, là, dernièrement, on a placé de la dette à 50 ans.
Vous placez la dette à la Banque Centrale Européenne ?
Alors non, pas directement. Non. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs, ça peut être des banques, des assureurs, des fonds de pension,
ouais.
Des banques centrales étrangères qui achètent de la dette. Et puis, une partie de cette dette est rachetée par la BCE, la Banque Centrale Européenne, mais pas toute. C'est ça qu'il faut que les Français sachent. C'est parce qu'il y a beaucoup de charlatans en ce moment qui tournent sur les plateaux télé, qui disent « Oh, mais c'est pas grave, c'est la BCE qui rachète toute la dette ». D'abord, c'est pas vrai. C'est la moitié qui est rachetée en ce moment à peu près par la BCE. Par ailleurs, ils se sont fixés... c'était en mars dernier, hein, je le raconte dans le livre, tout d'un coup, les taux entre la France et l'Allemagne deviennent un peu divergent. Avec l'Italie aussi, l'Allemagne, l'Italie, ça diverge. D'heure en heure, on voit que ça bouge.
Vous parlez d'un certain mars 2020.
Mars 2020, et dans la nuit, tout d'un coup, les gouverneurs des différentes banques de la zone euro, de banques centrales évidemment, se retrouvent pour cette réunion BCE et disent il faut racheter massivement de la dette, sinon on est dans une crise de la dette. Voilà. Et alors, après, derrière, s'embrayent les décisions, on arrive à 1300 milliards d'annonces de rachat de dette, mais ce ne sera pas éternel. Pourquoi ? Parce que d'abord, la BCE ne peut pas racheter toutes les dettes. Ensuite, en réalité, ça fait gonfler son bilan d'une manière un peu inquiétante. Donc la question, c'est aussi la confiance dans la monnaie derrière. Il ne faut pas aussi nous entraîner tous vers une situation où finalement, soit on serait dans une énorme inflation qui nous arriverait dessus, soit on serait sur des problèmes de change entre les monnaies, etc. Ça peut devenir extrêmement grave. Je le détaille dans le livre. Et puis... il y a cette idée permanente qui est de dire, ben finalement, si c'est la Banque centrale qui a racheté la dette, ou une partie de la dette, ben on n'a qu'à l'annuler.
Combien aujourd'hui l'épargne des Français ?
Alors là, par exemple, si on regarde ce qui est le plus connu, c'est l'épargne, c'est l'assurance-vie. Il y a 1800 milliards d'assurance-vie. Et c'est ça que j'explique dans mon livre, c'est que l'assurance-vie, à un moment, elle pourrait se retrouver face à une sorte de raid de l'État qui dit maintenant, on va taxer l'assurance-vie pour renflouer les caisses. Donc c'est pour ça que je dis attention, il n'y a pas d'argent magique. Chaque fois que vous empruntez de l'argent, en réalité, à un moment, il va falloir faire rouler cette dette, il va falloir la rembourser à un moment, et rester crédible, ça veut dire qu'une grosse partie, ça va retomber sur nous, voilà, collectivement. Il y a déjà eu un amendement à l'Assemblée nationale d'un centriste qui est dans la majorité et qui proposait tout simplement de taxer à 0,5% l'épargne dormante. L'épargne dormante, en fait, c'est quoi ? Eh ben, c'est notamment les assurances-vie. Et j'explique aussi que la loi Sapin 2 permet aussi de geler les placements des Français.
Vous le rappelez.
Et ça a été voté en 2016. Donc tout ça, c'est très très important qu'on en parle dans les médias, qu'on en parle partout, qu'on explique, c'est ce que j'essaie de faire avec ce livre, qu'on explique à nos concitoyens que, imaginez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que alors on ne peut pas ouvrir les stations de ski, donc on n'a qu'à embaucher les personnes, qu'on va les mettre ensuite en chômage partiel et que c'est l'État qui va payer. Non, c'est nous qui allons payer. Voilà. Et les Espagnols ou les Italiens, par exemple, ils ont des problèmes comme nous en ce moment, mais ils essaient d'ouvrir au maximum leurs activités économiques, plus que nous. Ils sont en train de rouvrir les restaurants en Italie le plus possible dans les zones où il y a le moins de virus qui circulent.
L'Espagne aussi, d'ailleurs.
Les régions espagnoles, et c'est beaucoup les régions, d'ailleurs, qui prennent les décisions au plus proche des gens. Les Espagnols ont décidé de maintenir ouvertes beaucoup de leurs stations de ski avec les remontées mécaniques, mais ça veut dire qu'il y a des contraintes énormes. Il y a beaucoup moins de personnes qui ont le droit d'utiliser, etc. Mais ils conservent une activité économique. Et moi, j'alerte sur le fait qu'en mars-avril dernier 2020, on a tellement confiné.
On a confiné tout le monde.
Tellement arrêté l'économie. Et à ce moment-là, je ne me réveille pas maintenant. À ce moment-là, tout le monde peut regarder. J'ai dit attention, les usines en Allemagne, elles tournent dans la chimie, dans la métallurgie, dans les cosmétiques. La CGT notamment, appelait à chaque fois à dire ah non, vous n'êtes pas essentiel, il faut vous arrêter. Cette histoire du débat essentiel, non essentiel, notamment dans l'industrie, il n'a pas du tout eu lieu comme chez nous. Chez nos voisins européens. Résultat, on a quoi ? On a eu plus de 8% de richesse en moins l'année dernière, en 2020, alors que les Allemands, ils sont à plutôt moins 5%. Donc, on a sacrifié beaucoup de notre économie déjà. Et j'appelle à ce qu'on comprenne que maintenant, il faut donner un peu l'explication de comment ils vont gérer la suite. C'est pour ça que je trouve important qu'il n'y ait pas eu de décision d'un confinement strict. Je pense qu'on a tous expliquer qu'on n'avait pas les moyens. En tout cas, moi, j'ai essayé de le dire au maximum.
Vous n'étiez pas la seule, beaucoup de médecins l'ont dit aussi, même du point de vue de santé.
Mais bien sûr, et donc, il faut arrêter cette histoire du quoi qu'il en coûte, parce que ça va nous emmener dans une situation de déclassement de la France qui va nous être absolument insupportable.
Mais alors, Agnès Verdier-Molinier, justement, on en parle souvent, on dit oui, d'accord, et effectivement, il y a cette histoire de... Vous avez là, l'argent, à un moment donné, il faut rembourser. Mais on vous dit, on entend tout ça, une antienne qu'on entend encore dans les médias, oui, mais aucun État ne fait faillite, la France ne peut pas faire faillite. Vous répondez alors... quoi quand on entend ça? Mais ça n'existe pas, les États en faillite.
Mais je rappelle dans mon livre la banqueroute des deux tiers en 1797.
Oui, mais c'est loin, ça.
Oui, oui, d'accord, mais c'est loin, mais c'est quand même très instructif. Donc, en fait, finalement, l'État ne rembourse qu'un tiers de ce qu'il doit à, en fait, à ses prêteurs, ses prêteurs qui sont en fait les Français. Pour la, voilà. À l'époque, on n'empruntait pas sur les marchés. Et en fait, pendant ensuite des années et des années, l'État n'a plus pu emprunter. Hein, donc, qu'est-ce que ça veut dire, un État en faillite? Ben, c'est aussi un État où il y a un problème, sur lequel il y a un problème de confiance. La confiance, vous savez comme moi qu'elle est très volatile. Si demain, on a dans le débat des présidentielles beaucoup de candidats, certains qui s'affichent d'ailleurs plus ou moins candidats pour 2022, des Mélenchon, des Jadot, etc., ont déjà dit qu'eux, ils pensaient que ce n'était pas la peine de rembourser. Mais à ce moment-là, les taux peuvent monter très vite.
Les taux d'intérêt.
Et je ne suis pas la seule à le dire. Ceux qui gèrent la dette à l'Agence France Trésor à Bercy expliquent très bien que là, on emprunte à des taux négatifs. Alors on dit, oh, bah, c'est tranquille, la charge de la dette est énorme. Hein, elle a été multipliée par 3 hein,
combien aujourd'hui 1800, la dette 1800
Alors, 2000, plus de 2700 milliards. Et on
2700
va vers,
milliards aujourd'hui.
Oui, et on va vers les 3000 milliards en 2022. Tout le monde est d'accord pour le dire, hein, c'est les chiffres officiels. Mais en 2003, on était autour de 1000 milliards. Ça veut dire que en 20 ans, on a fait x3 en valeur. Hein. Et c'est gigantesque. Mais alors qu'on faisait x3 en valeur, le paradoxe, c'est que la charge de la dette, elle a baissé. C'est-à-dire que ce qu'on paye tous les ans en intérêt...
À cause des taux d'intérêt négatifs, voilà. etc. Oui.
Donc, certains disent oh, bah, ça va durer pendant des années, des années. Puis il y a Olivier Blanchard, par exemple, l'ancien du FMI, qui disait oh, bah, on en a au moins pour 10 ans de taux à zéro, voire négatif.
Et vous dites c'est pas vrai, ça.
Non, mais puis tout d'un coup, je vois une interview de lui dans Les Échos qui dit oh, oui, mais alors, on ne sait pas encore exactement combien de temps ça va durer. Personne ne sait en réalité, André, combien de temps ça va durer. Et les calculs qu'ils ont fait, ils ont publié ça dernièrement là, dans la presse à l'Agence France Trésor, ils disent que si on était à 4% de taux d'emprunt, c'était les taux d'emprunt de 2007,
ouais, ouais. Hein,
et ben, on aurait une charge de la dette de plus de 80 milliards d'euros par an.
Hein, à rembourser, charge de la dette, ouais, oui, 80
ouais,
milliards.
Ouais. Alors, il faut quand même qu'on atterrisse. Et moi, ce que j'explique dans ce livre, c'est qu'il est encore temps, justement, pour se ressaisir, pour reconstruire la France, pour redonner un cap, pour redonner une stratégie. Mais il ne faut pas attendre, parce qu'il va se passer beaucoup de choses autour de 2022. Il y aura des débats sanglants autour de... certains voudront créer beaucoup plus d'impôts. J'avais encore ce débat hier. Il y a plein de gens qu'il faudrait taxer en plus, alors qu'on est au maximum du maximum partout. Sur les successions, on est le pays qui taxe le plus. Il y en a qui proposent de taxer à fond les successions, voire même de dire que ce serait plus possible d'hériter en France.
Taxer même les comptes bancaires, peut-être.
Oui, mais tout y passe. Tout y passe. Monsieur Piketty était invité en Belgique pour parler de ce projet, justement, de taxer l'épargne, hein, qui a eu de la résonance en Belgique dernièrement au Parlement. Donc, il y a énormément de propositions comme celle-là qui vont exactement dans le mauvais sens. Parce que si on taxe plus, on va produire encore moins en France. Et on aura encore moins de croissance. Et on ne pourra pas s'en sortir financièrement, parce qu'à un moment, la confiance des investisseurs dans la France, elle disparaîtra et on devra payer des monceaux.
Et la confiance, effectivement, ça se bâtit vite, mais ça se détruit encore plus vite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver André Bercoff dans tous ses états, rendez-vous tous les jours de 12h à 14h sur Sud Radio, bien évidemment. On va maintenant s'écouter un extrait du 10 en midi de lundi de Valérie Expert. Dans le traditionnel coup de cœur, coup de gueule, l'animatrice et ses débatteurs sont revenus notamment sur les révélations du magazine Closer concernant l'opération de chirurgie esthétique de Brigitte Macron. Un débat qui a fortement agacé Valérie Expert, qui n'a pas hésité à crier à la provocation. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
On va commencer avec un tour de table sur vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alors Eric, Vera, commençons avec vous.
J'ai un coup de cœur sympathique.
Oui.
Parce que je voulais saluer quand même le courage qu'a eu le journal Closer, bien connu, de révéler l'opération de chirurgie esthétique que... Brigitte Macron a subi l'an dernier, l'été dernier, en 2019.
C'est dégueulasse.
Qu'elle cherchait à cacher.
De quel droit pourquoi?
Alors, je pense que c'est un vrai sujet, si vous voulez. Pas du tout, je pense que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que moi, je connais une règle qu'on m'a apprise quand j'étais petit. Pour vivre heureux, vivons cachés.
Absolument.
Et donc, si vous ou moi ou Sophie de Menton, que j'entends râler, avions l'idée très superflue et inutile de faire une opération de chirurgie esthétique,
merci,
nous ferions à titre privé avec notre argent et ça ne regarderait personne.
Oh, avec notre argent, Eric, ce n'est pas digne de vous.
Non, mais nous ne sommes pas des personnalités qui nous réclamons d'un mandat de service public. Or, il y a une ambiguïté qui entoure Brigitte Macron, mais je finis quand même, puisque
allez-y.
Closer a révélé cette affaire qui a fait l'objet, en effet, de la fureur de Brigitte Macron, donc qui a attaqué Closer, et la 17e chambre correctionnelle de Paris a condamné Closer à payer 8 000 euros de dommages et intérêts à Brigitte Macron pour avoir révélé, pour atteinte à la vie privée. Brigitte Macron demandait 33 000 euros de dommages et intérêts, ce qui est une somme hallucinante. Moi, je pense qu'il y a quand même une ambiguïté, si vous voulez. Soit on pense qu'il y a un statut de première dame et ce statut ouvre droit à une information sur la vie privée de cette personne, comme sur la vie privée du président de la République. Le président de la République livre un bulletin de santé. Le président de la République, quand il est malade du Covid, il dit « je suis malade du Covid ». Alors, on n'a pas besoin de connaître les détails, mais c'est une information qui est nécessaire aux citoyens qui l'ont élu. Alors, soit on considère qu'il y a un statut de première dame, et j'entends Brigitte Macron passer à la télévision pour parler des pièces jaunes, je l'entends avoir un chef de cabinet, avoir des conseillers, avoir une audience publique, et à ce moment-là, elle doit se plier à la règle du jeu, qui est que on n'attaque pas un journal en atteinte à la vie privée lorsqu'il révèle des informations sur son état de santé. Soit elle veut conserver, ce qui est tout à fait son droit, sa vie privée, et je n'y vois aucun inconvénient, et elle trouve anormal qu'on sache qu'elle subit des opérations de chirurgie esthétique. Personnellement, je ne l'aurais pas deviné.
Mais est-ce qu'on en sait quelque
chose?
Et
à ce moment-là, elle se retire du statut de première dame.
Non, mais est-ce que vous savez de quelle opération il s'agit? Est-ce que c'était une opération de chirurgie esthétique? Est-ce que c'était une opération...
Oui, ça a été révélé par la presse.
Mais laquelle, alors?
Oui, non, mais...
Allez-y.
Mais Eric a raclé les fonds de tiroir.
Non, mais là, je trouve...
Je trouve que c'est un dingue.
Il est en manque d'inspiration.
Non, mais qu'est-ce que vous savez de cette opération? Qu'est-ce que vous savez de cette opération? Je trouve.
Je pense que vous êtes dans la provoque.
On s'en fout pas.
Parce que
c'est pour des raisons médicales, elle n'a pas raconté sa vie.
Si elle ne souhaite pas que ça se sache, elle perd son statut de première dame.
Mais il n'y a pas de statut de première dame. Ça n'existe pas.
Sauf qu'à ce moment-là, on ne lui donne pas de chef de cabinet, on ne lui donne pas de conseiller.
Mais il y a, je ne sais combien.
Un euro d'argent public dans l'affaire.
Mais je ne sais.
Femme de De Gaulle, l'épouse de De Gaulle, n'a jamais bénéficié.
Une opération esthétique, ça on est remarqué. Il ne vous échappera pas qu'on est en 2021 et que les temps ont un petit peu changé et qu'il n'y a pas de statut.
Mais je trouve
ça particulièrement.
Éric, en tant que femme, je veux répondre à Éric.
Oui. Allez-y, Sophie.
Alors, Éric, d'abord, je trouve ça dégueulasse, quoi qu'il arrive, parce que effectivement, on peut toujours avoir une opération, quelle qu'elle soit, qu'on n'ait pas envie de révéler. Deuxièmement, il n'y a pas de statut de première dame en France. Troisièmement, si elle n'avait ni secrétaire, ni réponse à son courrier, ni rien du tout, et qu'elle se planquait, les Français seraient fous de rage. Quatrièmement, c'est vraiment la seule au gouvernement qui a fait à sans faute. On ne peut rien lui reprocher. Elle ne se montre pas. Les pièces jaunes, elle a hérité. Je finis.
Voilà, on ne peut pas dire « elle est au gouvernement et il n'y a pas de statut de première dame ». C'est ça l'ambiguïté.
Alors, c'est une ambiguïté.
Soit elle est au gouvernement, soit elle n'y est pas.
Je vous l'accorde. Ensuite de ça, je trouve que c'est bien fait pour Closer, qui racle absolument tout ce qu'il peut y avoir vraiment à révéler. Les gens souffrent énormément de ce type de choses. Je pense que ça a été très difficile pour elle. Pour les gens qui, évidemment, sont contre Macron et qui vont profiter de ça pour lui balancer. Donc, je ne comprends pas du tout, ce n'est pas votre genre, Eric, ça.
Sophie, la conversation, honnêtement, la conversation est un peu délirante, parce que la réalité, c'est que si on devait s'intéresser à toutes les opérations de chirurgie esthétique,
ça,
des hommes politiques, je ne parle pas des
femmes,
des hommes politiques. D'abord, vous y passeriez vos semaines, parce que, la réalité quand même de ce milieu-là, c'est que c'est un milieu d'image et qui est donc, ils passent leur temps, les uns à faire des infiltrations de ceci, les autres à voir tel spécialiste de cela. Et évidemment, il y a le grand exemple historique, évidemment, c'est Mitterrand qui se fait corriger les dents.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Valérie Expert et ses invités, rendez-vous dès lundi dans le 10h midi. On va revenir dans un instant, promis, avec la chronique de Walter qui a décrypté avec humour les conséquences de la crise sanitaire. Restez avec nous.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
De retour pour la dernière partie du meilleur de Sud Radio. Merci pour votre fidélité. Avant de retrouver la chronique de Walter, on va s'écouter un titre de Grand Corps Malade en featuring avec Louane, avec une mélodie qui mélange refrain intense au piano et couplet électronique signé Quentin Mosiman. Voici Derrière le brouillard sur Sud Radio.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y'a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y'a pas de recette, toi t'en avais pas non plus, personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y'a pas de recette quand l'enfer te serre la main, abandonner cet humain, l'avenir c'est loin, mais tu t'es mise à chanter. Même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser. C'est exister, chanter comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole, quand la vie te punit, la musique te console? À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration, et à quel moment on en fait une chanson?
Si je me sens comme une enfant, j'ai déjà eu plusieurs vies. Je peux regarder devant en chantant ce qu'on m'a pris. Dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Derrière le brouillard, dans le meilleur de Sud Radio, très beau duo de Grand Corps Malade et Louane, extrait de l'album Mesdames de Grand Corps Malade, en hommage aux femmes et déjà double disque de platine. Allez, on va terminer en humour avec la chronique de Walter. Jeudi, l'humoriste belge a poussé un coup de gueule sur les conséquences de la crise sanitaire et du couvre-feu et il s'est rendu compte qu'il avait totalement changé sa manière d'occuper son temps libre. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Bonjour Walter. Comment ça va?
Bonjour Cécile, bonjour à tous.
Il fait planer le suspense.
Ça va, moi ça va.
Vous gardez le moral?
Ah oui, oui, oui. Non mais je garde le moral, mais je pense que malheureusement c'est pas le cas pour tout le monde. Ça y est, l'humanité a atteint un point de non-retour en termes d'ennui. Hein. Je vais vous le prouver.
Oui.
Déjà on n'en peut plus, tout le monde entier est en burn-out, on n'a rien à faire à part dormir, on passe de l'homo sapiens à l'homo sapiens. Parce que premier confinement, les gens ils ont fait quoi? Ils en ont profité pour se plonger dans des livres et du porno. Bon. Deuxième confinement, les gens, ils en ont profité pour se plonger dans des séries et du porno. Et là, il n'y a plus de sortie après 18h, pas d'interaction sociale. Je vous laisse donc deviner dans quoi les gens se plongent. Et on ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas leur en vouloir, Cécile. Parce qu'ils n'ont plus de vie romantique. Ah ben c'est normal, pour rendre visite à quelqu'un. Il faut finir le boulot à 17h, ce qui concerne uniquement les profs de collège et les bibliothécaires. Mmh. Et d'après les études, ce ne sont pas les deux catégories qui ont la sexualité la plus délirée.
Oh.
Et après, si on finit de bosser à 17h, le temps de passer... Non mais écoutez Patrick, je sais que vous prenez un air offusqué, c'est votre métier. Mais si on finit de bosser à 17h, le temps de passer pour acheter une bouteille de vin, oui, d'aller chez la dame, de te déshabiller, de la déshabiller, il reste une minute pour faire l'amour. Et comme vous me le disiez Patrick hors antenne, moi il me faut au moins 15, voire 16 secondes de plus. On n'est pas des animaux, hein, on n'est pas des animaux. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que le seul moyen de sortir après 18h, c'est de promener son chien. Mmh. Hein, le français a moins de liberté qu'un bichon maltais. Ah, vous avez vu comme je retombe sur mes pattes. J'ai l'impression vraiment, très honnêtement, qu'on a dépassé notre quota de temps libre utile. Mmh. Je commence à comprendre pourquoi les retraités sont devant les supermarchés à 8h du matin. Bah, acheter des courgettes, c'est parce que c'est l'événement de la journée. Mmh. Vous savez, l'autre jour, quelqu'un m'a appelé, c'était un mauvais numéro. Voilà, c'était une erreur. Je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, on peut parler quand même. Et on a parlé pendant des heures. Enfin, surtout lui, hein, ça a été compliqué de l'arrêter. Et s'il nous écoute, un petit coucou à Francis Lalanne. Voilà.
Mais est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez pensé et auxquelles vous ne pensiez pas avant?
Oui, tout à fait, c'est ce que je vous disais en tête, Cécile, parce que hier, le cerveau commence à changer. Hein, ah. On voit toujours les mêmes personnes, et ce qu'on aimait chez eux, ça commence à nous énerver.
Ouais.
Par exemple, vous savez, les copains, vous trouvez ça mignon quand ils utilisent des petites expressions ringardes comme « à la tienne, Étienne », »,« allons-y, allons-o », ou « tu m'étonnes, John ». Bon, moi, la dernière, c'est moi qui l'ai inventée, donc je peux supporter. Mais là, ça commence à devenir insupportable, surtout que mon cerveau, je ne sais pas vous, commence à fonctionner de façon étrange.
Ouais, c'est vrai.
Toutes les questions paradoxales qu'on retrouve sur le net. Pourquoi les boîtes de pizza sont carrées alors que les pizzas sont rondes? Comment on passe des menottes à un mec qui a qu'un seul bras? Sur l'arche de Noé, s'il y avait tous les animaux, il y avait aussi des termites, donc le bateau aurait dû couler, etc., etc. Je suis sûr que ce sont des observations qui ont été faites par des gens confinés. J'en suis complètement convaincu, parce que j'arrive même plus, moi, à regarder un film sans me poser des questions bizarres, ce qui gâche mon plaisir. Vous savez, l'autre jour, je regardais pour la 15e fois la guerre des étoiles, hein, je fais ce que je veux, et je me suis rendu compte que les vaisseaux font des bruits de voitures de sport.
Ah bon ?
Et qu'il y a des explosions énormes dans l'espace, alors que dans l'espace, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'oxygène, donc ce n'est pas possible. Ça fait 14 visionnages que je regarde ça comme un con, alors que j'ai toujours eu la moyenne en physique. Autre exemple,
oui.
James Bond, j'y arrive plus. Pourtant, moi, à la base, j'adore James Bond. Il est cool, il a la classe, il se tape 12 gonzesses alors que le film dure 1h45. Non. Mais en fait, 007, ce n'est pas un espion.
C'est
pas un espion. C'est un mec qui arrive au casino, il dit son vrai nom, déjà. Mmh. Il dépense 15 millions d'euros et après, il se tape la fille du mec qu'il est censé espionner. C'est l'agent le moins secret du monde.
Ouais, c'est vrai.
Si vous imaginez bien, vous imaginez un mec du Mossad, un gars du Mossad qui arrive en disant « Bonjour, je m'appelle Cohen, Ilan Cohen, je suis agent du Mossad. Vous êtes bien le professeur Rafani du programme nucléaire iranien. Enchanté, je suis venu pour vous assassiner. Vous préférez que je fasse dans la cuisine ou à côté du tapis ?» Non, ça marche pas. Hein. Non, non, non.
C'est vrai, c'est vrai.
Pour vous dire comme mon cerveau a du temps libre,
oui.
Pour vous dire que mon cerveau a du temps libre, hier j'écoutais la chanson Aimons-nous vivants. Vous vous souvenez de cette chanson?
Oui,
Aimons-nous
oui.
vivants, n'attendons pas que la voix. Eh bien, je me suis rendu compte que le nom du chanteur, qui est
François Valéry.
Ah oui.
Hein, c'est François Valéry, c'était le prénom de deux candidats à l'élection présidentielle, François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait en temps de confinement? Il n'y a qu'en temps de confinement qu'on fait ça. Je me suis dit, tiens, je vais essayer avec les autres. Ah oui, tiens, regarde, si on regarde Jacques Chirac et François Mitterrand, ça fait Jacques-François, hein, le grand acteur qu'on ne présente plus. Chirac et Jospin, ça fait Lionel et Jacques. Et Jean-Jacques Lionel n'a-t-il pas écrit et interprété La Danse des Canards?
Ah. Hein,
45 tours, le plus vendu des années 80 en France. Et c'est au moment où je me suis rendu compte que Georges Pompidou et Alain Poher, ça fait Georges Alain de la saison 2 de la Star Academy,
aïe,
que je me suis dit, est-ce que je deviens fou ou est-ce que j'ai assez de temps pour m'en rendre compte? Et pour garder le moral, j'ai repensé à cette phrase de Charles Bukowski qui disait « Certains ne deviennent jamais fous, comme leur vie doit être ennuyeuse. » Car une chose est sûre, ma chère Cécile,
oui,
pour tuer le temps, il faut s'armer de patience. Bonne semaine à tous.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Walter qui vous fait rire tous les jeudis à 8h20 dans le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Merci à tous d'avoir été avec nous dans le meilleur de Sud Radio. On se retrouve le week-end prochain. Prenez soin de vous et de vos proches et surtout respectez bien le couvre-feu. Excellent week-end à tous à l'écoute de Sud Radio.